La commission de l'énergie du Conseil des États propose d'abandonner les centrales nucléaires de la génération actuelle, mais elle n'entend pas fermer la porte à des technologies futures. Le président des Verts suisses, Uli Leuenberger, est fâché. L'OTAN poursuivra sa mission en Libye tant que la population sera en danger, a fait savoir aujourd'hui l'Alliance Atlantique. Stanislas Wawrinka passe le cap du premier tour de l'US Open de tennis. Nous retrouverons en direct de New York notre envoyé spécial Laurence Bolomé. Le temps restera bien ensoleillé. Dans l'après-midi, des passages nuageux transiteront par la Suisse romande et des cumulus apparaîtront près des crêtes. Le thermomètre affichera 24 à 26 degrés au maximum en plaine. Tous les détails en fin de journal. C'est une sortie du nucléaire avec bémol que préconise la commission de l'énergie du Conseil des États. Elle propose d'abandonner les centrales de la génération actuelle, mais pas question de fermer la porte à des technologies futures. La commission des États a donc corrigé la motion adoptée en juin par le National, une solution présentée comme un compromis et soutenue par la gauche, mais le président des Verts suisses ne cache pas son mécontentement, Uli Leuenberger.
Je suis assez fâché parce que la porte reste ouverte. On fait croire à la population qu'il pourrait avoir des centrales nucléaires sûres un jour. Et avec ça, on va freiner tous les projets où l'importance et l'ampleur de l'énergie renouvelable et plus d'efficacité dans le domaine de l'énergie. C'est très dommage et je pense même qu'après les élections fédérales, certains parlementaires vont mettre encore un peu plus d'eau radioactive, si je peux dire comme ça, dans leur vin.
En commission, ça a été adopté par 11 voix sans opposition et 2 abstentions. Ça veut dire que les représentants de gauche ont dit oui à ce compromis.
Écoutez, c'est assez incompréhensible pour moi. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec les collègues verts roses, mais pour moi, c'est assez incompréhensible.
Ils ont fait une erreur ?
De mon avis, oui.
Propos recueillis par Christelle Demangeau. Le groupe énergétique bernois FMB veut remettre en marche la centrale nucléaire de Mühleberg au plus tard à fin septembre. D'ici là, les travaux de sécurité en cas de crue, qui s'avèrent plus longs que prévu, seront achevés, ont indiqué les responsables aujourd'hui à la presse. Et puis le Parlement argovien a invité aujourd'hui le gouvernement cantonal à lui présenter 2 scénarios énergétiques avec et sans nucléaire. L'exécutif soutient la décision du Conseil fédéral de sortir du nucléaire. Le Parlement fédéral pourrait accepter lors de la session d'automne la modification de la loi sur les banques, too big to fail, qui prévoit des règles plus strictes pour les grandes banques. La Commission de l'économie du National recommande au Conseil national d'approuver la modification, suivant ainsi le Conseil des États, indique ce soir les services du Parlement. La mission de l'OTAN en Libye se poursuivra tant que les partisans de Muammar Kadhafi feront peser une menace sur la population civile, même si le régime est en train de s'effondrer. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'Alliance Atlantique. Bruxelles, Alain Franco.
Le travail à faire sera accompli aussi longtemps que la menace persistera. La mission en Libye durera. C'est le message de l'OTAN au colonel Kadhafi, un dirigeant qui reste non seulement toujours introuvable, mais qui reconnaît l'Alliance, commande encore ses troupes loyalistes. Il commande, il contrôle les mouvements, le déploiement d'armes, y compris les tirs de missiles sol-sol, affirme le colonel canadien Roland Lavoie, porte-parole de l'opération protecteur unifié. Si Tripoli est essentiellement libre selon l'OTAN, et bien que l'on assiste à un retour graduel à la sécurité, les combats et les frappes de l'OTAN ne sont pas encore terminés. Il se concentre à l'est et à l'ouest de la ville de Sirte. C'est de là que vient le colonel Kadhafi. C'est là qu'il se serait réfugié, affirme la rumeur. Parallèlement, des discussions sont en cours à Sirte entre les belligérants libyens, mais elles ne donnent rien pour l'instant. Nous n'avons reçu aucune proposition de reddition, affirme la rébellion qui annonce la bataille finale est imminente. Alain Franco, Radio Suisse Romande, Bruxelles.
Le comité des sanctions de l'ONU a approuvé ce soir la demande de Londres de débloquer 1,6 milliard de dollars d'avoir libyens gelés afin d'apporter une aide humanitaire à Tripoli, a annoncé l'ambassadeur de Grande-Bretagne à l'ONU. L'Allemagne, elle, souhaite débloquer environ 1,4 milliard de dollars d'avoir libyens gelés, tandis que Paris veut libérer quelques 7 milliards de dollars afin de contribuer à l'achat d'aide humanitaire pour la Libye. Le Conseil national de transition libyen a jugé aujourd'hui très imprudent le comportement de l'Algérie, qui agit selon lui contre les intérêts du peuple libyen en accueillant des enfants du dirigeant en fuite Muammar Kadhafi. Alger a assuré aujourd'hui avoir accueilli pour des raisons strictement humanitaires 3 enfants et l'épouse de l'ex-chef libyen Kadhafi. Les forces de sécurité syriennes ont tué aujourd'hui au moins 7 personnes lors de la dispersion de manifestations contre le régime du président Bachar al-Assad à la sortie des mosquées au premier jour des fêtes de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne du Ramadan. La chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a condamné la répression brutale des manifestations et exprimé sa profonde préoccupation. Et pour accroître la pression sur Damas, les États-Unis ont ajouté aujourd'hui le chef de la diplomatie syrienne, Walid Mualem, à la liste noire des personnes visées par leurs sanctions. Cela implique le gel des avoirs que Walid Mualem pourrait détenir aux États-Unis. Une mesure qui frappe également la conseillère du président Bachar al-Assad et l'ambassadeur de Syrie au Liban. Deux moines tibétains ont été condamnés aujourd'hui à 10 et 13 ans de réclusion criminelle par un tribunal du sud-ouest de la Chine, dans la province du Sichuan. C'est ce qu'annonce le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie basé en Inde. La Chine a confirmé avoir condamné hier un autre moine à 11 ans de prison. Les trois bons ont été accusés d'homicide après l'immolation d'un autre moine en mars dernier. De Pékin, Alain Arnaud.
Nous sommes sur les contreforts de l'Himalaya, dans une région du Sichuan qui compte une forte communauté tibétaine et de nombreux monastères. On ignore ce qui s'est vraiment passé ce 16 mars dernier, date anniversaire des émeutes anti-chinoises de 2008 à Lhasa, lorsque ce bon s'est immolé par le feu. Pour le pouvoir chinois, il serait mort parce que ses proches l'auraient retiré de force de l'hôpital où il était soigné pour le cacher au monastère. C'est pour cela que les trois moines ont été condamnés. Mais la version tibétaine veut que les policiers chinois aient roué le bonze de coups après avoir éteint les flammes. Ses amis l'auraient alors emmené eux-mêmes à l'hôpital où il est décédé. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des condamnations purement politiques. Human Rights Watch évoque des verdicts injustes qui s'inscrivent dans le cadre de persécutions sans précédent visant les monastères. Impossible de savoir qui dit vrai, il faudrait aller voir sur place, mais la région est verrouillée, aucun étranger n'y a accès. Alain Arnaud, Radio Suisse Romande, Pékin.
Les secours essayent toujours d'atteindre les milliers d'Américains du Vermont, du New Jersey et de l'État de New York, encore coupés du monde par des inondations deux jours après le passage de la tempête Irène. Dans de nombreux endroits, l'aide d'urgence doit être distribuée aux habitants par bateau ou par les airs. Environ 3,3 millions de ménages et d'entreprises sont toujours privés d'électricité sur la côte est des États-Unis. Quant au dernier bilan, il s'élève à 41 morts. La criminalité a augmenté en Suisse depuis 2004 et dépasse désormais la moyenne européenne. C'est ce qui ressort du sondage national de victimisation mené auprès de 2000 personnes. En 5 ans, le taux de personnes victimes de cambriolage est passé de 5 à 7% des sondés et le taux de personnes victimes de violences ou de menaces de 7 à 10%. La pose prévue de murs anti-bruit sur la côte vaudoise pourrait entraver la réalisation de la troisième voie CFF Lausanne-Genève. La députée libérale au Grand Conseil, Catherine Labouchère, a interpellé aujourd'hui le Conseil d'État pour dénoncer cette absurdité. Elle a d'abord cru à une plaisanterie, mais elle a constaté que les informations étaient exactes. À certains endroits, la pose de ces barrières empiéterait sur l'espace prévu pour la troisième voie. Catherine Labouchère a fait part de son énervement à Michel Lehmann.
Je trouve ça complètement aberrant, surtout qu'on peut parfaitement construire des parents anti-bruit en respectant la place pour la troisième voie.
Comment vous expliquez cette décision de Berne ?
Je suppose que c'est une décision, on se met dans un train sans jeu de mots administratif et puis on le suit. J'ai poussé un coup de gueule au Grand Conseil, je crois que ça a réveillé un petit peu les gens. Et puis évidemment, il faut agir par le biais de Berne parce que c'est quand même là que ça se décide.
Vous avez bon espoir d'y arriver ?
J'espère bien, parce que devant une bêtise pareille, on ne peut que réagir.
De leur côté, les CFF ont récemment déclaré qu'ils devaient respecter la loi et les travaux exigés par l'Office fédéral des transports. Météo Suisse va fermer 2 de ses 7 sites en Suisse, à Genève et à Zurich. Toutes les activités seront concentrées dans les 2 aéroports. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du projet de réforme de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie, a indiqué son directeur aujourd'hui. D'ici à la fin de 2013, Météo Suisse va devoir supprimer 20 emplois en profitant des départs naturels. L'Office compte actuellement 350 collaborateurs. La ville de Neuchâtel donne jusqu'au 9 septembre à la société Pro Imax pour verser 200 000 francs de loyers impayés. Sinon, des poursuites seront engagées. Pro Imax loue le stade de la Maladière et différents locaux annexes. Stanislas Wawrinka s'est qualifié pour le 2e tour de l'US Open de tennis en battant en 4-7 l'Argentin Maximo Gonzalez, 109e mondial. Un match qui n'a pas été sans difficulté, Laurence Bolomé.
Eh bien non, Stanislas Wawrinka a eu besoin de 4 sets. Il a été en fait cueilli à froid par l'Argentin au début de la partie. Du fond du terrain, eh bien l'Argentin ramenait toutes les balles. Il n'hésitait pas à agresser le Suisse quand cela était possible. Et malheureusement, c'était souvent possible. Et après avoir perdu sa première mise en jeu, le Vaudois en fait n'a jamais réussi à convertir les occasions de refaire son retard en prenant le service adverse. Trop de fautes ont émaillé son jeu et il a perdu cette première manche. Après, petit à petit, eh bien le Suisse a réussi à régler son jeu, à se montrer plus agressif, plus présent aussi. Il a moins eu besoin de s'accrocher du regard à son équipe dans les gradins du court 8. Et la logique des chiffres s'est ainsi rétablie. Le 14e joueur mondial, donc Wawrinka, a dicté le jeu au 109e. Le public a aussi beaucoup applaudi, beaucoup apprécié dès les 3e et 4e sets les magnifiques revers à une main si efficace et si variée de Stanislas Wawrinka, alors que Maximo González n'arrivait plus à tenir le rythme. Donc une victoire en 4-7. Et au prochain tour, le Vaudois n'aura peut-être pas la même cote du public face à l'Américain Donald Jung.
À signaler encore les qualifications du Serbe Novak Djokovic et du Français Joe Wilfried Tsonga. Chez les dames, la numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki a passé également le cap du premier tour. La bourse suisse a terminé sur une note quasiment stable à l'issue d'une séance en Dancy. À la clôture, le SMI a gagné 0,05% à 5 449 points. À New York, le Dow Jones a gagné 0,18% tandis que le Nasdaq a pris 0,55%. Carole Dubuis.
Le dernier jour d'août sera beau et chaud. Le ciel restera bien ensoleillé malgré le passage de nuages de haute et moyenne altitude dans l'après-midi, précise Météo Suisse. En seconde partie de journée, on verra aussi des cumulus naître le long des reliefs, particulièrement le long du Jura. Ils resteront purement décoratifs. En revanche, en soirée, voire pendant la nuit, une averse ou un orage pourrait se manifester, surtout en montagne. Le mercure flirtera avec les 24 degrés en pleine au maximum. En Valais, il sera plus généreux avec 26. C'est à 3700 mètres qu'on fera la connaissance du 0 degré. Jeudi, un courant de sud-ouest apportera plus d'humidité sur nos régions. Le temps sera instable, hésitant entre belles éclaircies et passages nuageux.